CopyFail est la dernière faille d'importance découverte dans le kernel Linux. Elle fait très mal. Elle est présente depuis 10 ans et permet une escalade de privilèges pour tous les utilisateurs présents sur le système. Affichant un score CVS de 7,8 sur 10, ma foi, un fort beau gabarit et un code Proof of Concept pesant 732 octets en Python. En clair, c'est le passe-partout dévastateur et universel. Inutile de vous dire que, justement pour cette édition des 10 ans de la THCon, ça embruisse pas mal dans les couloirs. Mais est-ce vraiment ce que on annonce? N'a-t-on pas un peu exagéré son importance? Découverte par l'analyseur IA Xint Code, édité par Theory, en une heure de revue de code kernel, est-ce un coup marketing un peu trop bien monté pour se faire remarquer après deux années de CVE slop? Nous en parlons avec DXC0, DevSecOps, biclassé CTI.
CPU, carré, petit, utile.
Pour commencer, DXC0, bonjour et bienvenue.
Bienvenue.
Ça fait combien de fois que tu es venu à la THCon?
Alors là, ça fait deux fois que j'y vais et on compte bien continuer si tout se passe bien, voilà. Et que ça continue dans le temps.
Pourvu que ça dure, comme on dit. Quand j'ai vu l'info sur CopyFail passer au petit matin, je me suis dit « Wow, putain !» Puis en relisant « Wow, putain, wow, putain, wow, putain !» Et là, on m'a dit que quand je monte à plus de 1 WPTPM « Wow, putain !» par minute, c'est que ça craint sérieux. Quelle fut ta première réaction quand tu as vu cette faille?
Moi, je vois souvent des CVE Linux passer à longueur de journée sur le net. Enfin voilà, quand on est dans la cyber, on est un peu habitué à voir ça tout le temps. Moi, j'ai tendance à prendre du recul directement, dans le sens où souvent les médias exagèrent fortement, on va dire, l'exploitabilité des choses. C'est-à-dire que oui, effectivement, là, on est sur quand même quelque chose d'important. Mais voilà, prendre du recul, souvent, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a du buzz. Et savoir discriminer ce qui est pertinent du reste. Mais voilà, on va dire que c'est quand même un peu grave parce que ça se fait juste avec un wget sur une machine sans avoir besoin d'amener des binaires ou quoi. Donc voilà.
Je te remercie en tout cas pour m'avoir compté parmi les médias. Faut-il paniquer si on a des équipements basés sur Linux et impatchables, nickel root, pour pouvoir désactiver ce qui fait la faille?
Mon avis, moi, sur ce genre de sujet, c'est que ça va dépendre de la criticité des assets. On va dire que quelqu'un qui a une bonne défense de base sur son SI devrait pas forcément être inquiété directement, ou du moins pas forcément paniquer quand il y a une faille de ce type. Ça veut pas dire qu'il faut pas la patcher, ça veut dire qu'il faut quand même monitorer ses vulnérabilités. On va dire que faut quand même avoir quelqu'un qui arrive sur la machine pour pouvoir l'exploiter. On peut se poser la question de quel est le risque et quelle est la menace. Donc oui, vous pouvez avoir un utilisateur interne qui effectivement peut faire des choses comme ça, mais il doit quand même avoir un accès. Donc comment a-t-il eu un accès si votre politique d'authentification est que tout n'est pas exposé en mode password? En théorie, vous avez le temps de corriger ou du moins de mettre de l'atténuation, quoi.
Disons que si j'utilise toujours des OnePlus 2 pour télécommande sur ma télé, ou là quand même... Mais non, ça joue pas, puisque il y a ce Linux dans le kernel Android. Donc dans ce cas-là, question suivante, le fait que le code fautif incriminé est dans le wrapper AEAD et le module ALGIF AEAD du sous-système cryptographique suite à une optimisation un peu rapide... Oh putain, radio éphémère, on lâche des mots, c'est trop génial. Je vais encore faire paniquer les émissions de reggae qui se réveillent en nous écoutant. Ça ressemble un petit peu à une autre époque dans un patch malheureux de Debian qui a donné Heartbleed. Doit-on considérer que la cryptographie devrait plus se conformer aux bonnes règles de gestion mémoire et même d'écriture de code dans le kernel?
Je ne suis pas un expert sur le sujet, donc je vais dire je suppose que oui.
Sincèrement, ça ne te choque pas d'avoir des modes, des inline, de l'assembleur à la place du C sur un truc qui théoriquement ne parle pas du matériel mais qui parle juste de chiffrement?
Alors si on peut dire ça, après on peut se dire que ça va sur des bonnes voies. Quand on regarde que maintenant Linux a accepté officiellement le code Rust...
À reculons,
mais c'est le cas. Les commits, y avait plein de commits en attente sur plein de projets que moi je suis en open source qui commencent à passer. Donc je pense que c'est sur des bonnes voies. Mais voilà, après, on se prend de la dette technique, on va dire ça, et pas forcément évidente à corriger, quoi.
On l'aura toujours, malheureusement, quoi que l'on fasse, surtout vu la complexité du code en question. Android est immunisé grâce justement à une version teintée du kernel Linux qui s'appelle SE Linux. D'autres ont pu facilement désactiver le module ALGIF AEAD via le shell ou sinon invalider le cache en mémoire du système de fichiers. Est-ce que c'est une preuve que finalement il n'y a pas de quoi tant paniquer que ça, ou quand même non, faut être sérieux. Il faut regarder ça quand même un petit peu de manière consternée et concernée, parce que derrière, il y a beaucoup de budget à défendre pour les achats de nos systèmes périmétriques en entreprise.
Alors, ouais, je suis parfaitement d'accord sur les budgets, sachant que toutes les entreprises n'ont pas le même ni les mêmes compétences sur place. Après, voilà, il y a quand même ce qui est possible sur le papier ou pas. Et je maintiens que ça dépend ce que vous utilisez comme techno. On va dire que moi, je pense, enfin, je fais partie d'ailleurs, ça tombe bien, des personnes qui sont assez pro SE Linux. Moi, je conseille la plupart du temps des systèmes Red Hat, même si je sais qu'il y a polémique et ça coûte très cher. Du coup, c'est effectivement quelque chose qui permet d'éviter des accès incontrôlés et notamment l'exploitabilité de ce genre de trucs. On va dire que c'est un peu la continuité du principe de moins de privilèges, etc. Et il y en a plein qui le font. Par exemple, Microsoft, sur leurs infrastructures Asus, ils sont en train de rollback et de passer sous Fedora.
Azure.
Azure, pardon, excusez-moi.
Pas de pub.
Pas de pub. Donc sur Azure, ils passent sur du Fedora aussi. Donc ça se réfléchit. Disons qu'on a besoin d'avoir peut-être, au-delà d'avoir SE Linux, quelque chose qui puisse faire du mandatory access control. Quoi. Alors, correct.
Si les mises à jour kernel n'arrivent plus, que faire d'autre ? Et on ne va pas dire que ça n'existe pas quand même. Linux est utilisé un petit peu partout, aussi bien dans les voitures que dans des imprimantes DocuCenter branchées en réseau dans les entreprises.
Alors, je ne sais pas trop quoi dire.
Parce que là, on parle de matériel qui ne dure pas 2 ans, qui peut durer 10 ans, mais dont la maintenance des kernels ne dure même pas 3 ans des fois.
Alors c'est vrai, en plus surtout, il y a beaucoup de choses qui peuvent rester en legacy et dont les constructeurs en fait s'occupent même plus. Il n'y a plus d'upstream, il n'y a plus rien. Enfin, voilà. On voit que les systèmes comme Debian ou tout ce qui est connu, ils sont en train de corriger. Red Hat, ils ont refait un kernel compilé avec tout ce qu'il faut, etc. corrigé. Par contre, ouais, on peut se poser la question sur des bagnoles ou des trucs comme ça. Comment on pourrait faire ? Moi, j'ai pas la solution. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je te renvoie la balle parce que
couper l'accès réseau. Et tant pis, ça imprime plus.
Alors, ça peut marcher sur des trucs qui ont pas besoin du net, mais ouais, je vois ce que tu diras.
Xincode a-t-il vraiment montré son utilité ?
Oui, je pense. Je pense que oui. Après, moi, je suis pas fan de l'engouement des IA. Genre de choses, je suis assez réfractaire. Forcé de constater que c'est quand même des outils qui sont utiles.
D'après ce que j'ai compris, en plus, ça n'est pas utilisé comme agent autonome. C'est un framework sur lequel se base un utilisateur pour faire des tâches répétitives bas niveau.
Oui, en fait, moi, la manière dont je vois ce genre d'outils, c'est qu'en fait, au lieu de le voir comme de l'intelligence, enfin, l'IA, c'est quand même assez bullshit, on va dire qu'il faudrait le voir comme un système d'audit automatisé, c'est du DevOps, quoi. Genre, on automatise la gestion de la sécurité sur des assets et le test, voilà. Enfin, je pense que c'est nécessaire, c'est bien. Après, défauts positifs, il y en aura toujours. Il faudra toujours des êtres humains pour checker ce qui leur sort, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé des CVO Slope, mais il y a la prochaine génération donc de Claude, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs au moment où l'on enregistre, qui a suffisamment mis la panique pour que Firefox n'ait fait une release, donc la release numéro 150, qui était basé uniquement sur la correction d'inconsistance levée justement par Claude en avant-première.
Ok. Merci Firefox.
Plutôt merci Claude de leur avoir donné un accès en avant-première. Il faut absolument mettre un ou plusieurs outils d'audit en IA avant de déployer en pré-prod ?
Je pense que ça peut être utile, ouais. Ça peut être utile, ça fait gagner du temps. Faut pas que ce soit une raison, ça dépend encore une fois des entreprises, faut pas que ce soit une raison pour descendre des effectifs, parce qu'on a besoin d'êtres humains qui checkent la qualité de ce qui sort et qui soient capables de prendre du recul par rapport à ce que va donner l'outil d'audit selon sa performance. Après voilà, moi je suis pour l'automatisation, je suis pour que le monitoring soit plus simple, le patching soit plus rapide, donc oui je suis pour. Ouais.
À la NTS par exemple, avec la dernière faille de sécurité qui mériterait des baffes.
Ce que j'allais dire. Il y a des fois où c'est des problèmes vraiment profonds au niveau du code ou du SI, et après il y a des fois c'est des problèmes de négligence. Moi j'ai pas les tenants aboutissants de pourquoi ça s'est passé. Après on peut se poser la question, est-ce que c'est un manque d'effectifs, est-ce que c'est un problème de formation, un problème de qualité des infrastructures, faudrait le voir. Je pense qu'il y a que eux qui savent vraiment ce qui s'est passé, quoi.
Pour en revenir à cette faille, donc appelée copy fail par ceux qui l'ont découverte, on reproche le timing au découvreur de la faille. 34 jours entre le moment où il divulgue la faille au mainteneur kernel et son annonce en public, sans attendre que les paquets correctifs soient disponibles dans les distributions. Distrib qui, des fois, ont appris la faille en même temps que leurs utilisateurs. Est-ce que la divulgation n'a pas été faite responsablement, ou faut-il blâmer le temps de latence des distrib ou de la réactivité de certains sur le kernel ?
Mon avis sur la question, non, ça ne devrait pas être divulgué avant patching général de quasiment tout, si on peut, hein, dans la faisabilité technique. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on découvre quelque chose, on a toujours envie de publier, quoi. Je pense qu'il y a un besoin viscéral de publier, de ne pas se faire voler la découverte par une personne tierce, ça c'est, je pense. Après, ouais, effectivement, il faudrait que ça aille plus vite. On peut l'exiger quand on paye un abonnement, quelque chose de pro, quoi. Genre quand on a un contrat avec un mainteneur sur quelque chose. Après, quand vous êtes sur des distributions qui sont libres, open source, ce genre de choses, on peut pas blâmer les mainteneurs, on peut pas blâmer les contributeurs. Après, côté kernel plus haut, là, oui, effectivement, il y a des gros financements, on peut se poser la question. Mais sinon, sur les distributions, à part Red Hat et peut-être Ubuntu, quand vous prenez la version serveur et que vous payez vos abonnements, je vois difficilement comment on peut blâmer... les mainteneurs du distro, quoi.
Mais on avait quand même pas mal reproché à beaucoup d'éditeurs qui avaient été mis au courant pendant des années de failles, qui ne corrigeaient pas parce qu'ils se disaient « tant que ça ne se sait pas, ça peut passer sous le radar ». Et d'un autre côté, on se plaignait aussi de certains découvreurs de failles qui le planquaient, et certains soupçonnaient que c'était pour proposer des ADE à des agents étatiques ou à de la criminalité organisée.
Bah, là, on part sur quelque chose qui est plus politique. Moi, je ne sais pas forcément si ils gardent les découvertes de failles pour forcément les donner à des agents étatiques ou les vendre.
Pourquoi donner ? On peut les vendre.
Ou les vendre à d'autres. Bah, probablement que ça existe. Le mieux, c'est d'attendre que tout le monde patche. Si on est éthique, il n'y a pas besoin de publier le truc. Encore moins comme on a vu que ça a été fait. Surtout sur un POC aussi simple, quoi. La personne aurait dû comprendre que c'était quelque chose d'exploitable ultra facilement, une fois qu'on a un accès, bien entendu, et donc pas le publier de manière trop légère, on va dire.
Petit instant, reconnaissons le petit plaisir coupable. Ce genre de faille, c'est idéal pour espionner son ex ou son patron.
Ah, c'est pas faux.
C'est quoi que t'as pas compris ?
On peut vérifier la fiche de paix. Est-ce qu'on aura l'augmente l'année prochaine ? Enfin, voilà, quoi. Enfin, ouais, non, mais c'est sûr. Après, ce genre de faille, je pense que... C'est compliqué en termes d'exploitabilité. Comment vous voulez bloquer ça, en fait ? À partir du moment où le code, il est dispo, je veux dire, il a été copié 12 milliards de fois, il y aura forcément... Là, j'ai vu, ils avaient bloqué, en termes de DNS en France, le copy fail, je sais pas quoi, là, l'URL. Ouais,
moi, qui c'est qui a fait ça ?
Moi, j'arrive plus à accéder. Donc, à mon avis...
C'est complètement idiot. C'est accessible de n'importe où, des opérateurs mobiles et tout.
Bah, je sais pas, mais moi j'ai vu j'ai commencé à voir des blocages DNS, même avec Proton, VPN, ça commence à bloquer. Hein, donc, après, ça sert à rien de faire ça.
Ouais, l'information étant libre, c'est un petit peu trop tard. Faut-il interdire aux divulgateurs de failles de déposer les noms de domaine avant de décrire la faille ?
Ben, moi j'ai envie de dire, juridiquement, si on veut créer quelque chose pour couvrir. Éventuellement, pourquoi pas, mais ouais, ça sert à rien, c'est toujours contournable. Je veux dire, juridiquement, oui, on peut dire oh là là, c'est interdit, mais voilà. Mais vous savez, entre ce qui est interdit et ce qui est fait, et ce qui est en zone entre deux grises, enfin voilà. Donc, après, voilà, si vous voulez, si on veut remettre des services de l'État à courir à travers les mecs qui publient des domaines, on peut y aller, hein, de toute façon, voilà. Mais je pense pas que ce soit utile, ça servira probablement à rien.
DXC0, merci beaucoup. Je te relâche et c'est le retour justement vers la salle de conférence. Une conférence qui t'a bien plu, là ?
J'ai bien aimé la conférence sur les aimbots, là. Les aimbots détection pour les jeux vidéo.
C'est détection anti-cheat dans les FPS, voilà, on explique.
Ouais, c'est ça, exactement. Et après, une note que j'ai bien aimée. En vrai, il y en avait pas mal des intéressantes. Il y en avait une sur Mitre hier, sur le labelling aussi, j'avais bien aimé, parce que ça fait partie de mon métier. Mais ouais, globalement, de toute façon, les conférences sont de très bonne qualité. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir à la THCon, l'équipe.
Merci DXC0.